politique.
Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi vous est présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. RFI Midi, 2h30 ensemble pour faire le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants, avec nos reporters et avec nos invités. Et l'Algérie à la une au lendemain d'une élection sans surprise, fêtée par les partisans du président Tebboune, très largement réélu.
La campagne électorale a été bien organisée depuis le début. Toutes les règles et les lois ont été respectées par tous durant cette campagne. Les résultats sont excellents. C'est grâce à l'effort des jeunes Algériens aussi. C'est une victoire écrasante de notre candidat Abdelmadjid Tebboune pour un nouveau mandat.
Près de 95% des voix pour Abdelmadjid Tebboune. Écrasante victoire déjà remise en cause par l'opposition et par les ONG de défense des droits humains. Victoire néanmoins saluée chaleureusement par le président français dès hier. Félicitations appuyées pour le chef d'un pays avec qui les relations sont toujours compliquées. On en parlera avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Reportage aussi à Alger et réaction dans Afrique Midi à midi et demi temps universel. De nouvelles plaintes contre l'abbé Pierre en France, homme d'église et fervent défenseur des plus pauvres. Il était aussi un homme violent qui a agressé, voire violé des femmes pendant des années. L'image associée à l'abbé Pierre désormais sera celle d'un prédateur sexuel. C'est ce que dit le directeur de l'association Emmaüs International. Il sera notre invité juste après le journal dans quelques instants. On reviendra aussi une dernière fois sur les Jeux paralympiques. Clap de fin hier soir, sous la pluie, comme au premier jour des JO en juillet. Mais les gouttes n'ont pas du tout entamé la joie des Parisiens et des visiteurs.
J'ai ressenti que ça a ramené la paix. Les gens ne se connaissaient pas, mais au final de compte, moi, quand j'ai été sur des sites, j'ai échangé avec des gens qui parlaient une autre langue, avec des gestes, des signes, et on se comprenait. Et on a partagé des moments forts. Ça m'a manqué parce qu'au final de compte, j'ai l'impression que ça a ramené l'amour.
Alors comment faire pour garder un peu, au moins, de cet état d'esprit? Que va-t-il rester de ces Jeux de Paris? Les infrastructures seront-elles bien réutilisées comme prévu? Pourra-t-on encore se baigner dans la Seine? Les anneaux olympiques vont-ils rester sur la Tour Eiffel? On vous dit tout dans quelques minutes. Voilà, vous avez le programme, bienvenue. Et pour commencer, comme chaque jour, le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
L'Iran accuse Israël d'attaques criminelles en Syrie.
Oui, l'accusation a été lancée à Téhéran par le ministre iranien des Affaires étrangères. L'agence officielle syrienne l'affirme. Une série de raids lancés dans la nuit a fait au moins 16 morts et plus de 40 blessés sur des sites militaires syriens. Récit de Paul Ralifé.
Des avions israéliens ont mené ce lundi 4 vagues de raids en moins de 3 heures contre des cibles dans la région de Mesyaf à Hama dans le centre et au large de la province de Banias sur la côte méditerranéenne. Une pluie de missiles air-sol a frappé un complexe de recherche scientifique à Mesyaf, où l'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état d'une quinzaine de fortes explosions entendues à plusieurs kilomètres à la ronde. L'ONG, basée en Grande-Bretagne, affirme que plusieurs bâtiments et positions militaires dans ce complexe ont été détruits. L'observatoire ajoute qu'une plateforme flottante au large de la ville de Banias a également été attaquée par des appareils israéliens. Des missiles intercepteurs de la défense aérienne syrienne se sont abattus sur des zones résidentielles en Syrie, indique l'ONG et des sources syriennes indépendantes. L'aviation israélienne a frappé le territoire syrien 65 fois depuis le début de l'année, faisant 190 morts dans les rangs de l'armée syrienne et de ses alliés. Les voies de ravitaillement en armes et en matériel entre l'Iran et le Liban pour le compte du Hezbollah passent par la Syrie, qui constitue la principale base arrière du parti chiite libanais. Paul Khalife, Beyrouth. RFI.
Interrogé par l'agence France Presse à Jérusalem, l'armée israélienne n'a pas voulu confirmer ni infirmer ses raids meurtriers. Sans surprise, l'Algérie reconduit à sa tête Abdelmadjid Tebboune, le président sortant réélu pour un deuxième mandat avec un score de près de 95% selon les chiffres officiels. Mais la présidentielle de samedi a été marquée par une désaffection persistante de l'électorat, environ 48% de participation, chiffre avancé samedi et qui depuis n'a pas été actualisé.
Depuis l'Espagne, il appelle à continuer la lutte pour la démocratie dans son pays.
Edmundo González Urrutia, l'opposant vénézuélien contraint à l'exil, a dû fuir pour préserver sa liberté et même sa vie. C'est ce qu'affirme la chef de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado. Ce départ forcé est un coup dur pour l'opposition qui tente de maintenir la mobilisation contre le gouvernement de Nicolas Maduro. L'ex-candidat à la présidentielle pourra-t-il vraiment continuer la lutte depuis l'Espagne? Et qu'en pensent les États-Unis qui soutiennent l'opposition vénézuélienne? Christophe Paget a interrogé Yoleti Bracho, maîtresse en sciences politiques à l'Université d'Avignon.
Les États-Unis ont annoncé des nouvelles sanctions à des personnes proches de Maduro. On s'est dit que certainement tout ce qui est en train de se passer autour d'Edmundo González va pousser les États-Unis probablement à ces sanctions-là. En même temps, la compagnie Chevron a eu un contrat d'exploitation de pétrole au Venezuela jusqu'à 2050, compagnie donc pétrolière états-unienne. C'est une vraie inquiétude du coup pour toute la question de la défense de la démocratie au Venezuela, puisque si les États-Unis ont été assez clairement un soutien fort de l'opposition traditionnelle au Venezuela, le fait est aussi que à partir de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique qu'on connaît à l'échelle internationale, les États-Unis ont cherché aussi à dialoguer avec le gouvernement Maduro, notamment par les accords qui devaient amener à une élection plus transparente. Bon, clairement, on n'a pas eu une élection plus transparente, mais historiquement, les États-Unis ont aussi su s'accommoder avec des gouvernements qui étaient peut-être pas forcément les plus démocratiques au monde, mais qui sont devenus des alliés commerciaux. Et donc, en fait, on se pose la question. Dans la tension entre une diplomatie états-unienne qui soutient une certaine vision de la démocratie au Venezuela et une diplomatie états-unienne économique, on va dire, on se demande finalement qu'est-ce qui va prendre le dessus.
Yoleti Bracho de l'Université d'Avignon.
Un temps d'automne s'installe à Paris. Il fait gris, il fait froid, il pleut. Ça se confirme, c'est vraiment la fin d'un été de jeu.
Oui, les 17e Jeux paralympiques ont pris fin hier soir au Stade de France. C'était lors d'une cérémonie de clôture réchauffée par la musique électro. Le tableau des médailles est sans surprise. C'est la Chine qui triomphe devant la Grande-Bretagne et les États-Unis. La France, elle, finit 8e avec 75 médailles, dont 19 en or. Un bilan en net progrès par rapport aux précédents Jeux. Il permet au parasport français de rivaliser avec les meilleures nations. Christophe Diremzian.
20 médailles de plus qu'en 2021, davantage de titres, le paralympisme français a tenu son pari de réintégrer le top 8 mondial. Derrière le résultat, des budgets en hausse et une préparation professionnelle depuis plusieurs années, mais pas de quoi encore tenir tête à deux récents pays hôtes, la Grande-Bretagne et le Brésil, respectivement 2e et 5e du tableau d'honneur, qui profitent déjà d'un effet jeu, selon Claude Onesta, le manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport.
Ils bénéficient de tout ce qu'ils ont construit lorsqu'ils ont été pays organisateurs. Et ce nouveau socle sur lequel vous travaillez, va continuer, on l'a dit, à produire des pratiquants chez les plus jeunes, chez les gens qui ont des accidents de vie et qui sont adultes. Donc ça veut dire que vous augmentez votre base et vous aurez demain des équipes encore plus performantes.
Passer un cap supplémentaire, c'est rajeunir, féminiser. Mais d'abord, estime Michael Jérémiaz, le chef de mission des Bleus, faire en sorte que la lumière ne s'éteigne plus sur les parasportifs et leur discipline.
C'est qu'en fait, maintenant, il y a un suivi dans le soutien, mais c'est pas qu'une question d'argent. Juste un moment qu'en fait, on retourne pas aux oubliettes avec ces athlètes-là, et notamment dans des sports plus confidentiel ne soit pas abandonné. Et puis moi, je rêve que les parasports soient enseignés en milieu ordinaire. C'est pas plus con d'apprendre à nos enfants de faire du basket fauteuil que de sauter le plus loin possible dans un bac à sable. Donc moi, je vais être assez occupé dans les semaines qui viennent pour justement s'assurer du service après-vente.
Le milieu paralympique attend désormais du prochain gouvernement des engagements forts pour que Los Angeles 2028 soit encore mieux réussi sur le terrain que Paris 2024.
On reste en France où les automobilistes vont devoir lever le pied sur le boulevard périphérique autour de Paris.
Oui, le périph, cette autoroute urbaine de près de 40 km. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a confirmé ce matin que la vitesse allait être limitée sur le périph dès le 1er octobre à 50 km/h au lieu de 70 actuellement. L'objectif est double, faire baisser la pollution de l'air et la pollution sonore. L'opposition de droite est contre, elle juge la mesure antisociale. Au-delà de l'aspect politique, Air Paris, l'organisme qui surveille la qualité de l'air à Paris, explique que cette limitation sera efficace à certaines conditions. Antoine Trouche est en charge de la médiation scientifique à Air Paris.
Ça va surtout dépendre d'une part de l'impact que ça aura sur les embouteillages. Si cette mesure elle entraîne plus d'embouteillages, ça va aggraver la qualité de l'air. Si au contraire elle fluidifie le trafic, ça va améliorer la qualité de l'air. Et ça, c'est difficile d'anticiper quel impact ça va avoir. Et l'autre grand facteur à prendre en compte, c'est l'impact que ça va avoir sur l'usage de la voiture. On sait que limiter la vitesse maximale de circulation, ça va décourager certaines personnes de prendre la voiture au profit de transports en commun, du vélo ou de la marche à pied, qui sont des modes de transport beaucoup moins émetteurs de polluants de l'air. Sur ces 10 dernières années, les concentrations de particules fines, elles ont baissé environ de 25% à proximité du périphérique. Et les concentrations de dioxyde d'azote, qui est un gaz polluant particulièrement nocif pour la santé, a baissé d'environ 45% sur ces 10 dernières années. Maintenant, sur cette période, il y a eu et une baisse de la vitesse maximale de circulation, mais il y a aussi d'autres politiques publiques. Il y a eu un remplacement de vieux véhicules par des véhicules plus récents, par des véhicules électriques. Il y a eu aussi une baisse du nombre de kilomètres faits en véhicule le long du boulevard périphérique. Donc, c'est tous ces facteurs qui ont concouru à l'amélioration de la qualité de l'air. Il est difficile d'identifier un facteur particulier qui est à l'origine de l'ensemble de cette baisse.
Antoine Trouche d'Air Paris avec Jeanne Richard. Enfin, les habitants de Grenoble, ville du sud-est de la France, rendent hommage aujourd'hui à un employé municipal tué par balle. La victime, un père de famille de 49 ans, est mort en tentant d'empêcher l'auteur d'un accident de la route de s'enfuir. Plus largement, les Grenoblois rendent hommage aux agents de service public exposés aux violences.
Gilles Moreau, on vous retrouve dans 2 heures pour un prochain journal et nous allons parler de l'actualité en France durant les 20 prochaines minutes. Nous allons parler d'une figure française.
RFI, la France à midi.
De nouvelles révélations sur l'abbé Pierre viennent faire tomber encore un peu plus ce mythe français. Cet homme, fondateur des Compagnons d'Emmaüs, engagé aux côtés des plus pauvres sa vie durant, mais un homme aussi qui a agressé des femmes et au moins une enfant, c'est ce qu'affirment de nombreux témoignages. Et nous recevons aujourd'hui le directeur général de l'association de solidarité Emmaüs International. Bonjour Adrien Chaboch.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, vous qui êtes, on s'en doute, très demandé en ce moment. Les premières accusations, elles ont été rendues publiques en juillet dernier. 17 autres s'y sont ajoutées il y a quelques jours pour des faits dont certains peuvent être définis comme des viols. Et il faut préciser que vous-même, l'association Emmaüs, vous contribuez à la mise au jour de ces informations. Quand avez-vous entendu parler de ces agressions pour la première fois ?
Alors, nous avons été saisis en juin 2023 par le témoignage d'une victime et qui nous a amené à déclencher ce travail de compréhension et d'analyse de ce qui avait pu se passer. Voilà, d'où un travail d'écoute que nous avons confié à un cabinet spécialisé, le cabinet EKE, et dont nous avons rendu les conclusions publiques pour une première fois en juillet, et effectivement après avoir ouvert une ligne de témoignage direct pour une deuxième fois vendredi dernier.
Il y a ce travail d'écoute, et quel est votre rôle aujourd'hui aux côtés des victimes ?
C'est d'abord essentiellement de les écouter, de leur donner enfin l'écoute qu'elles auraient dû avoir longtemps avant. Certaines avaient déjà saisi des autorités, soit auprès d'Emmaüs, soit auprès de l'Église, et n'avaient pas été entendues. Donc je crois que c'est important de leur reconnaître qu'effectivement, ce qu'elles ont vécu est complètement anormal et que nous le dénonçons avec la plus grande force. Et puis après, de leur apporter un accompagnement, notamment celles qui le souhaitent peuvent bénéficier d'une séance avec une psychologue spécialisée en psychotrauma. Et nous sommes en train d'organiser des rencontres entre les victimes qui le souhaitent et des membres de nos conseils d'administration pour avoir un vrai échange.
Est-ce que vous prévoyez d'autres mesures concrètes pour les accompagner, pour réparer peut-être aussi ?
On sait que c'est un travail qui est long, qui est difficile, et donc nous y travaillons, nous y réfléchissons effectivement. Nous sommes bien conscients qu'il faut qu'on avance sur ce sujet-là. Voilà, pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est en cours de réflexion chez nous.
Vous l'avez évoqué rapidement, il y a un choix de votre part d'être transparent, actif même, aux côtés des femmes qui dénoncent ces agressions, un choix qui a été salué par plusieurs groupes féministes. Mais en fait, et ça aussi vous nous l'avez dit, beaucoup savaient, nos confrères de Radio France ont eu accès à des documents qui montrent que l'Église et l'organisation Emmaüs étaient au courant dès les années 50. Pourquoi est-ce que l'abbé Pierre a été couvert à ce moment-là et pendant des décennies ?
Et c'est une très bonne question à laquelle moi, en tout cas, je ne suis pas en mesure de répondre comme ça avec certitude, parce que ça nécessite, vous l'avez très bien dit, d'aller chercher des archives, d'interviewer des personnes sur une période extrêmement longue et dans plusieurs pays. Donc il y a là un travail que nous souhaitons voir mener, et donc nous avons décidé de créer une commission d'historiennes, d'historiens et de chercheuses et chercheurs en sciences sociales pour pouvoir en toute indépendance répondre aux questions que vous avez posé, qui sont les nôtres aussi, c'est-à-dire comment un homme aussi connu a pu, pendant autant d'années, faire ce qu'il a fait sans qu'un vrai stop soit donné à un moment.
Vous nous l'avez dit, vous travaillez avec un cabinet privé qui est le cabinet EGAE. C'est une référence en France pour accompagner les victimes d'agressions sexuelles. Est-ce que vous encouragez aussi les victimes à porter plainte formellement et à saisir la justice ?
Nous, de toute façon, on considère effectivement que les victimes doivent pouvoir être accompagnées dans leur choix, y compris un choix judiciaire si elles souhaitent le faire. Et en tout état de cause, nous tenons l'ensemble de nos informations à la disposition de la justice si elle souhaite se saisir.
C'est quelque chose que vous encouragez ?
C'est quelque chose que nous sommes prêts à accompagner.
Un certain nombre de décisions ont été annoncées récemment. La Fondation Abbé Pierre a dit qu'elle allait changer de nom. Un lieu de mémoire va aussi être fermé. Est-ce qu'au sein d'Emmaüs International, donc qui est l'une des organisations qui ont été fondées par l'Abbé Pierre, d'autres mesures sont envisagées ? Parce que aujourd'hui, il faut le dire, dans ces trois associations, l'image de l'Abbé Pierre, elle est omniprésente.
Oui, c'est une figure très importante pour nous, bien sûr, hein, historiquement et aussi symboliquement. De nombreuses personnes qui s'engagent à Emmaüs ou qui nous rejoignent comme compagnes et compagnons le font aussi parfois au nom de l'abbé Pierre. Donc là, il y a un travail qu'on démarre, mais qui est vraiment au tout début de prise de conscience de ce qu'il a pu faire et de reconstruire notre histoire, non pas en effaçant l'abbé Pierre, mais en tenant compte de cette face de sa personnalité qu'on ne connaissait pas. Et en se
et
présentant
possible,
au monde
ça,
différemment.
De continuer à se revendiquer de son combat pour les plus pauvres, tout en tenant compte de ces horreurs qui ont été commises pendant des dizaines d'années?
Alors, de l'abbé Pierre, c'est une question difficile, mais des combats que l'abbé Pierre a portés et qui sont aussi ceux du mouvement Emmaüs depuis le début, ça oui, parce que ce sont nos combats. Emmaüs, c'est une œuvre collective qui n'existerait certes pas sans l'abbé Pierre, mais qui n'aurait pas existé non plus sans les premiers compagnons, sans les amis, les bénévoles, toutes les personnes qui ont rendu possible cette action et qui la mettent en œuvre au quotidien. Aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des effets aujourd'hui ? Est-ce que vous percevez des effets sur les personnes qui travaillent avec vous, notamment sur les bénévoles qui seraient peut-être découragés ou qui n'auraient plus envie de travailler pour vos associations ?
Il y a eu évidemment un choc, une sidération, une grande souffrance, une douleur évidemment, mais moi j'ai aussi beaucoup entendu des gens dire « mais en fait, ça ne nous empêche pas de continuer à agir sur les valeurs qui sont les nôtres et qui, encore une fois, sont celles du mouvement Emmaüs, indépendamment de l'abbé Pierre. Moi, j'ai plutôt entendu des gens dire « ça nous a fait mal, ça nous touche, mais ça n'empêchera pas qu'on continue nos actions et qu'on continue nos combats comme avant ».
Avec le nom de l'abbé Pierre qui peut encore s'afficher sur un certain nombre de documents, sur des sites, sur des immeubles, cours d'opération ?
Mais écoutez, ça, c'est un travail qui prend du temps parce que c'est aussi un travail que doit mener cette organisation qui est une organisation de groupe de base. C'est-à-dire que chaque groupe est indépendant et que nous construisons nos décisions collectives ensemble. Évidemment, ça prend du temps à l'échelle de 40 pays et de plus de 400 groupes. Donc, chaque groupe doit aujourd'hui entamer ce travail de réflexion sur la place qu'il va donner à l'abbé Pierre. Nous ne donnons pas de consignes, mais nous invitons à être responsables dans les choix qui sont faits, compte tenu du fait que l'image de l'abbé Pierre maintenant est aussi celle d'un prédateur sexuel.
Merci beaucoup Adrien Chaboch d'avoir été en ligne avec nous, délégué général de l'association de solidarité Emmaüs International. C'est l'une des associations qui a été fondée par l'abbé Pierre. Et merci d'être à l'écoute sur RFI. Il est 13h18 à Paris. Vous l'avez peut-être regardé à la télévision comme près de 8 millions de personnes en France, le dernier grand rendez-vous de cet été olympique. Une soirée de fête au Stade de France pour marquer la fin des Jeux paralympiques. La pluie n'a pas entamé l'état d'esprit des spectateurs, ni au stade, ni dans les différentes fan zones installées dans Paris. Reportage Place de l'Hôtel de Ville de Pierre-Olivier.
Ils sont venus prendre une dernière dose d'émotion.
J'ai juste pleuré, mais pleuré comme un fou. Il y avait tellement une grande ferveur. Enfin, c'était iconique. J'ai vraiment kiffé, vraiment.
Une cérémonie de clôture avec 24 DJ qui se transforme en soirée électro.
Malgré la pluie, c'est du bonheur.
Sur le parvis détrempé de l'hôtel de ville, ces touristes allemands dansent au milieu de la foule.
C'est la France qui réussit le mieux ces ouvertures et clôtures des Jeux Olympiques. C'était splendide chaque fois.
Magnifique.
Magnifique.
Oui, c'était vraiment magnifique. La France peut être fière de soi.
faire la fête, comme pour oublier que déjà, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont bel et bien terminés.
On a beaucoup profité, on espère que l'esprit va perdurer dans la joie et la bonne humeur. Et
vous y croyez ?
Le côté parisien n'y croit pas du tout, mais le côté français y croit.
Allez, cette cérémonie de clôture, c'est aussi l'occasion de revenir sur les images que les Français retiendront de ces Jeux.
Moi, je dirais la médaille d'or au cécifoot, parce que ça a fait découvrir un sport hyper impressionnant. Et la ferveur du public, tout en silence, était très belle à voir.
Bah, nous, ce qui nous a marqué, c'est les Paralympiques. Quoi. Parce que alors, les Jeux Olympiques, c'était superbe aussi. Hein. Mais je trouve que les Paras, c'est encore mieux, parce que c'est une sacrée performance. Et on est allé voir le cécifoot. Hein. Je trouve ça génial. Quoi.
C'est vrai. Je pense que quand je suis allé voir une épreuve, la natation aux Jeux Olympiques,
c'était marquant et c'était marchand.
Des souvenirs sportifs inoubliables, mais aussi une ambiance générale qui restera gravée dans les mémoires.
J'ai ressenti que ça a ramené la paix. Les gens ne se connaissaient pas, mais au final de compte, moi, quand j'ai été sur des sites, eh bien, j'ai échangé avec des gens qui parlaient une autre langue, avec des gestes, des signes, et on se comprenait. Et on a partagé des moments forts. Ça m'a manqué parce qu'au final de compte, j'ai l'impression que ça a ramené l'amour.
Même les Parisiens, pourtant quelque peu échaudés par les travaux avant les JO, ne regrettent pas d'être restés à Paris cet été.
On est Parisiens et on est restés. On a hésité. Et franchement, heureusement qu'on est resté.
Un été placé sous le signe de la communion dans l'ensemble de la société.
Notamment les policiers, hein. On a bien vu les policiers souriants et tout. Franchement, ça fait du bien.
Alors forcément, on en redemande encore.
On aimerait que l'ambiance continue à Paris, que les gens aient le sourire, soient détendus, mais tout a une fin.
Et même les meilleures choses, Paris aura fait vibrer au-delà des frontières et passe le relais à Los Angeles dans 4 ans.
Reportage de Pierre-Olivier. Voilà, c'est fini Paris 2024. Le Stade de France, depuis, a retrouvé son calme après une soirée forte en émotions. Le démontage des sites de compétition a déjà démarré. Tous ceux qui ont vécu cette liesse populaire, ces exploits à répétition ont un peu le blues. C'est votre cas, Christophe Diremsian,
oui, bonjour,
on peut le dire.
Anne.
Bonjour. C'est fini, hein, mais il restera forcément quelque chose de ces Jeux, un héritage matériel, à commencer par ces symboles, évidemment, que les autorités veulent garder visibles.
Oui, les anneaux olympiques, hein, d'abord placés sur le flanc de la Tour Eiffel. La maire de Paris, Anne Hidalgo, veut les laisser au minimum jusqu'en 2028, l'année des JO de Los Angeles. L'idée n'a pas forcément plu aux descendants de Gustave Eiffel, pour qui les anneaux modifient un peu trop l'aspect visuel de la Dame de Fer, qui n'est pas non plus, il est vrai, faite pour supporter longtemps les 30 tonnes de la structure. Les anneaux actuels vont donc être remplacés par une version plus légère dans les semaines à venir. Les agitos paralympiques, eux, vont quitter le sommet de l'Arc de Triomphe pour s'installer sur les Champs-Élysées. Et puis, que va devenir la superbe vasque installée au cœur du jardin des Tuileries, devenue une icône et qui s'envolait chaque soir à la nuit tombée sous le regard de 15 000 spectateurs en moyenne? Eh bien, c'est à l'État, propriétaire du terrain, de décider de son avenir. Enfin, les statues des 10 femmes françaises, on s'en souvient, apparu sur la scène pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Olympe de Gouges, Alice Mia, Gisèle Halimi ou encore Simone Veil devraient s'installer à la vue de tous dans une rue du nord de la capitale, même si d'autres villes les convoitent toujours.
Alors, l'organisation des Jeux avait aussi nécessité la construction d'un village olympique, d'ouvrages pérennes qui devraient maintenant trouver leur usage définitif, Christophe.
Oui, les chambres du village, hein, situées à cheval, on le rappelle, sur 3 communes de Seine-Saint-Denis, ont été conçues dès l'origine pour être intégrées à un nouvel éco-quartier, 2800 logements familiaux et résidences, des bureaux mis à disposition à l'été 2025 après une phase de travaux dits de réversibilité qui démarreront le 1er novembre. 1300 logements supplémentaires proviendront du village des médias basé à Duny. La plus grosse infrastructure spécialement créée pour ces Jeux, le centre aquatique olympique, juste en face du Stade de France avec ses 4 bassins, ouvrira désormais ses portes à 2 catégories de population. Le grand public, jusque-là en manque cruel de piscines dans ce département de la Seine-Saint-Denis où les enfants accuse un gros retard dans l'apprentissage de la natation. Et le haut niveau, le CAO, devient en effet un site d'entraînement de l'équipe de France de plongeon et le futur cadre de compétition internationale. La première est d'ailleurs déjà programmée. Ce sont les championnats d'Europe à l'été 2026. Enfin, même les structures provisoires vont s'inscrire dans la durée. Le bassin olympique de l'Arena de la Défense, théâtre des exploits d'un certain Léon Marchand, va déménager à Sevran, toujours en Seine-Saint-Denis. Le maire de la ville a d'ailleurs choisi de le baptiser du nom du quadruple médaillé d'or français.
Et puis, il y a plusieurs choses qui sont un peu plus difficiles à évaluer, Christophe. L'héritage immatériel, notamment l'accessibilité pour les personnes porteuses de handicap. Vous allez nous en parler dans un instant. Et puis cette promesse de pouvoir se baigner à terme dans la Seine, c'est prévu en principe pour l'été prochain. On peut encore en douter.
Oui, parce que c'est pas parce que Anne Hidalgo, Tony Estanguet et la ministre démissionnaire des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'y sont baignés dans la Seine en juillet, que tout le monde pourra le faire de la même façon en toute tranquillité. La qualité de l'eau reste quand même un problème. Elle était trop mauvaise pour que le programme initial des épreuves, par exemple, de paratriathlon puisse être respecté. Tout dépendra en fait des moyens financiers mobilisés pour poursuivre la modernisation du réseau d'assainissement. Et de toute façon, seuls trois bras du fleuve dans Paris seront concernés. Beaucoup de question, vous l'avez dit aussi, sur l'effet des Jeux paralympiques sur les personnes en situation de handicap, athlètes ou non, sur l'accessibilité des transports en commun. Les efforts seront-ils poursuivis? Le parasport bénéficiera-t-il de budgets en hausse pour progresser encore dans sa professionnalisation? Le milieu paralympique attend en tout cas beaucoup de la part du prochain gouvernement. En tout cas, ce qu'il espérait de la médiatisation exceptionnelle de ces Jeux paralympiques dans une liesse populaire comparable à celle des JO a déjà eu lieu. Désormais, on les regardera bien comme des sportifs à part entière, sans misérabilisme.
Merci Christophe Diremzian. Il reste quand même une bonne nouvelle. Les souvenirs d'abord et puis vous allez pouvoir vous reposer.
Oui, ça fera pas de mal, effectivement.
RFI à Pointe-Noire, 93.2 FM.
Nous vous emmenons maintenant au Congo. Donc, la ville de Pointe-Noire accueille en ce moment le festival de musique Ponton Miziki et notre reporter y a rencontré le groupe Gaël et les Caïmans. Son leader, Gaël Manangou, a parlé de son parcours atypique et de ses influences à notre reporter Marjorie Bertin.
Bonjour Gaël et les Caïmans.
Bonjour.
Vous venez de vous produire il y a quelques instants sur la plage de la Côte Sauvage de Pointe-Noire au Ponton Miziki Festival. Après des années au Sénégal, à Dakar, qu'est-ce que ça vous fait en tant que Ponténégrin, je crois que c'est comme ça qu'on dit,
ouais, c'est ça,
de revenir jouer ici?
Je ne m'attendais pas à ce public-là. C'était un public très 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 chaleureux. J'étais aux anges.
Ce qui m'a saisi en vous regardant jouer, c'est la diversité des styles de votre musique. Il y a du blues, il y a de la funk, de l'afrobeat, vous jouez de la samba aussi. D'où est-ce que ça vous vient, ce goût de l'éclectisme, de la fusion musicale comme ça?
La fusion musicale, je crois, due aux artistes que j'ai eu à accompagner avant. Parce qu'avant que je sois chanteur, j'étais percussionniste. J'ai eu la chance d'accompagner le vieux Manu Dibango, puis à son âme, Karès Fotio du Cameroun, plusieurs. Et je crois, j'ai beaucoup bougé aussi. Les influences des autres cultures m'ont permis de faire une fusion entre ma culture et la culture des autres. Parce que je n'ai pas trahi mes sources, mais j'ai juste créé un pont entre l'extérieur et le ghetto, quoi.
Mais en parlant de sources, vous avez commencé à baigner dans la musique grâce à votre père qui était très croyant, qui vous emmenait à l'église. Et après, c'est la rencontre d'un griot.
Ouais, c'est ça. Mon père fut un grand dirigeant de la chorale. Malheureusement, paix à son âme, il est décédé quand j'avais 10 ans. Mais il m'a ramené à l'église de 4 à 8 ans, je crois. Et derrière, j'ai subi un truc qui existait avant. C'est qu'avant, il y avait l'histoire d'héritage. On nous avait tout pris, donc j'ai fait 7 ans de rue. Donc la rue m'a beaucoup aussi construit. On était un groupe de jeunes qui fabriquaient des instruments avec de la récup et on jouait dans les restos-bars de la plage pour gagner la vie. Et après, je vendais un peu des trucs au marché, quoi, des oignons, qui me ramenaient des centimes. Et c'est ces centimes-là que je pouvais soutenir mes sœurs, mes deux sœurs, parce que je ne voulais pas qu'ils finissent prostituées. C'est ce que j'ai... Je payais les études de mes sœurs.
Et vous avez fondé votre groupe, Gaël et les Caïmans. Les Caïmans, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui?
Si tu veux, dans chaque ethnie au Congo, chaque ethnie a un totem depuis nos arrière-arrière-parents. Moi, je viens d'une famille des Caïmans. T'as des familles d'éléphants, t'as des familles des lions, t'as des familles de léopards, mais moi je viens du Caïman. Donc j'ai toujours voulu garder cette valeur-là. Et les Caïmans, pour moi, c'est toute personne qui travaille avec moi. Je chante la vie de tous les jours. J'écris pas pour écrire, mais tous mes morceaux parlent de mon vécu parce que j'ai un vécu très costaud. Je raconte les histoires de vie, mais dans l'amusement. Je fais le bazar dans l'ordre.
Merci beaucoup, Gaël et les Caïmans.
Merci.
Le motivateur, tu n'es point d'un quoi ni mana
Gaël Manangou, leader du groupe Gaël et les Caïmans, qui se produit donc à Pointe-Noire hier au festival de musique Ponton Miziki. Il répondait à Marjorie Bertin. Restez avec nous sur RFI, on se retrouve dans 30 secondes maintenant pour l'actualité en Europe. A tout de suite.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Allons-nous réussir à préserver une planète habitable pour tous les humains en harmonie avec l'ensemble du vivant ? C'est la question à laquelle nous répondons chaque semaine dans C'est pas du vent. La bonne nouvelle est que nous connaissons le chemin pour y parvenir. Toutes les solutions sont à notre portée.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à 14h10 TU sur RFI.